Sur l'étude de la fin du contrat, nous revenons sur la question de la résolution en regardant une question particulière qui est celle de la différence entre résolution et résiliation. Et pour la voir, je suis avec Fabrice Rosa. Bonjour cher Fabrice.
Bonjour.
Alors, nous rappelons que l'article 1224 du Code civil, tel qu'il résulte de l'ordonnance du 10 février 2016, nous dit que la résolution peut résulter de trois causes, soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave d'une notification du créancier au débiteur, ou d'une décision de justice. Mais ça, ce sont les causes de la résolution. Nous voyons maintenant ses effets. Est-ce que la résolution entraîne systématiquement remise en l'état antérieur? Est-ce qu'il faut faire comme si le contrat n'avait jamais existé? Alors, on a un article, il faut l'évoquer, un article 1230 qui nous dit « La résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Bon. » Donc, on a déjà certaines clauses qui vont se maintenir en cas de résolution. Donc, différence avec la nullité. Mais on a quand même une question importante qui est celle de la des restitutions qui vont être produites par la résolution. Et ces restitutions, cher Fabrice, est-ce qu'il y a systématiquement remise en l'état antérieur? Est-ce qu'on va faire comme si le contrat n'avait jamais existé?
Alors, ça, c'est la grande distinction qu'il faut opérer entre, d'une part, la résolution elle-même et d'autre part, ses effets du point de vue des prestations échangées. Traditionnellement, on disait que la résolution était rétroactive. Toute la difficulté était d'appliquer ce mécanisme à des contrats à exécution successive. Et le texte nouveau, ici, nous propose un critère de distinction selon que...
Donc c'est l'article 1229,
second alinéa. Et ce texte, donc, distingue selon que les prestations ont une utilité en cas d'exécution complète du contrat, ou bien si elles ne trouvent une utilité qu'au fur et à mesure de l'exécution de ce même contrat. Dans le premier cas, c'est-à-dire s'il faut une exécution complète du contrat pour que les prestations soient utiles pour les deux parties, eh bien, c'est l'ensemble des prestations qui seront restituées, et là, on parle de résolution. Et le texte nous dit qu'en revanche, lorsque ce n'est qu'au fur et à mesure de l'exécution du contrat que les prestations trouvent leur utilité pour les parties, eh bien, dans ce cas de figure, on ne restituera pas l'ensemble des prestations, mais seulement les prestations qui n'ont pas trouvé de contrepartie. En fait.
D'accord, donc on pourrait prendre, je crois que c'est un ouvrage d'Alain Benabban qui cite l'exemple d'une vente d'encyclopédie, par exemple. Mm-hmm. Donc une vente d'encyclopédie, on voit que si on me livre une partie des encyclopédies, mais pas la totalité, on peut se dire que finalement la prestation n'a pas d'utilité. Donc dans ce cas-là, si on ne me livre plus les volumes, je vais demander une résolution qui va entraîner remise en l'état antérieur, donc restitution complète. Mm-hmm. Alors qu'en revanche, si on m'a livré une prestation qui était, on me livrait, je sais pas, un roman tous les mois, mais sans lien entre les différents ouvrages, peut-être que dans cette hypothèse, si on me les livre pendant une certaine période et puis qu'on arrête de me les livrer, quand je demande à ce qu'on mette fin au contrat, on ne remet pas en cause la phase qui précède le moment où le contrat commence à être mal exécuté, c'est ça?
Oui, il semble-t-il, et donc l'intérêt du texte, c'est ici de consacrer des solutions que l'on trouvait déjà en filigrane dans la jurisprudence antérieure.
Voilà, mais sans reprendre effectivement la distinction classique qui était entre contrat à exécution instantanée et successive.
Oui, cette distinction, elle fonctionnait souvent, mais parfois, elle n'était pas toujours très pertinente.
Voilà, sachant qu'en plus, le Code, effectivement, a maintenant une définition un peu différente du contrat à exécution successive, où il fait référence au contrat où les prestations d'une partie sont échelonnées dans le temps. Donc, voilà, on a une distinction qui est un peu moins claire que ce qu'on connaissait, parce que le contrat à exécution échelonné n'était pas nécessairement un contrat à exécution successive, contrat où, traditionnellement, c'était plutôt les prestations d'une partie se renouvelaient dans le temps.
Mmh, absolument.
Voilà. Bon. Eh bien, merci, cher Fabrice.
Merci, cher Bruno.